VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition spéciale du 1er mars 2017, consacrée en grande partie au premier discours du président Donald Trump devant les deux chambres réunies du Congrès. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson.
Discours du président Trump donc la nuit dernière devant les deux chambres réunies du Congrès ici à Washington. Plus d'un mois après son investiture et sa prise de fonction à la Maison-Blanche, Donald Trump a dévoilé pendant plus d'une heure sa vision pour le pays. Emploi, sécurité, immigration, tous les grands thèmes ont été abordés. Nicolas Pinault était sur place à Capitol Hill.
Oui, le 45e président des États-Unis a pris de la hauteur cette nuit pour ce discours prononcé devant le Congrès américain. Loin des accents belliqueux et des polémiques qui rythment le début de son mandat, Donald Trump a d'abord appelé l'Amérique à l'unité en dénonçant notamment les attaques contre les centres communautaires juifs du pays ou la mort de deux Américains d'origine indienne tués dans ce qui semble être un crime raciste.
Well, we may be a nation divided.
Nous sommes peut-être une nation divisée sur la politique. Nous sommes un pays qui reste uni pour condamner la haine et le mal dans toutes ses formes les plus affreuses. Je suis là ce soir pour délivrer un message d'unité et de force, et c'est un message délivré du plus profond de mon cœur.
Le président Trump a rappelé l'une de ses promesses de campagne et promis de créer des millions d'emplois aux États-Unis. Il demande ainsi au Congrès de valider un plan de 1 milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures du pays, comme les routes ou les ponts. En matière de lutte contre l'immigration clandestine, le président Trump annonce que le mur à la frontière mexicaine sera bientôt construit. Il affirme aussi que la politique migratoire américaine va changer pour se tourner vers une immigration choisie. Au mérite.
Je vais faire revenir des millions d'emplois et protéger nos travailleurs. Ça veut dire aussi réformer notre système d'immigration légale. Des pays comme le Canada ou l'Australie et bien d'autres dans le monde ont des systèmes migratoires basés sur le mérite. C'est un principe de base que ceux qui veulent entrer dans un pays doivent pouvoir subvenir à leurs besoins financiers, mais ce n'est pas ce qu'on fait aux États-Unis, utilisant les maigres ressources publiques dont dépendent nos concitoyens les plus pauvres.
Alors que Donald Trump demande au Congrès une hausse du budget de la défense de 54 milliards de dollars, le président américain a redit hier sa volonté de vouloir détruire l'organisation État islamique qui résiste toujours en Irak et en Syrie.
Nous prenons aussi des mesures fortes pour protéger nos frontières du terrorisme islamique radical. Nous avons vu les attaques à la maison de Boston, à San Bernardino, au Pentagone et même, eh oui, le World Trade Center. On a vu les attaques en France, en Belgique et en Allemagne et partout dans le monde. On ne peut pas laisser notre pays devenir un sanctuaire pour les extrémistes. C'est pourquoi mon administration travaille pour améliorer les mesures de contrôle des migrants et nous prendrons d'autres mesures bientôt pour maintenir la sécurité de notre nation et maintenir en dehors du pays ceux qui nous veulent du mal. Comme promis, j'ai instruit le ministère de la Défense de développer un plan pour démolir et détruire le groupe État islamique, un réseau de sauvages sans foi ni loi qui a massacré des chrétiens, des musulmans, des hommes, femmes et des enfants de toute religion et de toute croyance.
Autre thème cher à ses électeurs, Donald Trump demande aux républicains et aux démocrates de supprimer l'Obamacare, la réforme de l'assurance maladie, une loi symbolique votée sous son prédécesseur Barack Obama.
C'est l'ancien gouverneur du Kentucky, Steve Beshear, qui est revenu la tâche d'apporter la réponse des démocrates au président Trump. Les démocrates sont engagés à créer des opportunités de réussite pour tous les Américains à travers une croissance économique génératrice d'emplois bien payants, l'éducation et la formation des travailleurs pour ces emplois, mais aussi la sécurité nationale et les soins de santé accessibles aux familles, a assuré Steve Beshear. Concernant Obamacare, le système d'assurance maladie de l'ancien président Barack Obama, l'ancien gouverneur du Kentucky a dit que le projet des républicains de le remplacer accroîtra les coûts en fournissant moins de soins. Il s'est aussi prononcé sur les mesures controversées du président Trump en matière d'immigration.
Look,
Le président peut et doit appliquer nos lois en matière d'immigration, mais nous pouvons protéger l'Amérique sans abandonner nos principes et notre obligation morale d'aider ceux qui fuient la guerre et le terrorisme, sans déchirer les familles, sans inutilement mettre en danger nos hommes et femmes en uniforme qui combattent à l'étranger.
C'était Steve Beshear, l'ancien gouverneur démocrate du Kentucky.
Pour une analyse du discours de M. Trump, j'ai contacté Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Il a parlé de tous les sujets brûlants pour les Américains, de tout ce qu'il a promis, et il a dit « je vais continuer à appliquer mes promis ». Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il est un président républicain avec beaucoup d'idées démocrates. Par exemple, il veut dépenser beaucoup d'argent pour réparer notre infrastructure. Ça, c'est une politique plutôt démocrate que républicaine. Il a parlé d'aide maternelle pour aider les mères avec les petits-enfants. Ça, c'est une politique démocrate et pas républicaine. Il veut réformer le système d'assurance santé. Et il a dit, nous devons réduire le prix des médicaments. Ça, c'est une politique démocrate. Parce que président Obama a voulu négocier les prix de médicaments parce que c'est le gouvernement américain qui est le plus grand acheteur. Et les républicains ont refusé.
Mais il veut se débarrasser de Obamacare, le programme d'assurance maladie de M. Obama.
Oui, il veut se débarrasser, mais il veut aussi le remplacer. Il a dit qu'il faut une assurance santé pour tout le monde qui est abordable et avec tout le monde qui est couvert. C'est-à-dire, si vous avez déjà une maladie, une société d'assurance ne peut pas refuser. Ça, c'était la politique d'Obama. Donc, je crois qu'il est en face d'un problème avec ses propres républicains qui veulent beaucoup moins que lui dans beaucoup de sujets. Donc, à mon avis, c'était un très bon discours parce qu'il cherche à aider le petit Américain, l'ouvrier américain, celui qui n'a pas avancé dans son éducation après l'école secondaire ou même qui n'a même pas eu une éducation secondaire.
Alors, sur le plan extérieur, comment voyez-vous ses positions sur les relations de l'Amérique avec le monde extérieur? Il a dit qu'il a été élu pour défendre les intérêts de l'Amérique d'abord.
Oui, bien sûr, comme tous les présidents des États-Unis ont toujours eu une politique de défendre l'Amérique d'abord. Il n'a pas inventé ça, mais c'est le premier président depuis la Deuxième Guerre mondiale qui parle de ça comme une grande politique. Ça fait peur aux autres pays, surtout nos alliés. Mais je suis content qu'il a dit à nos alliés dans l'OTAN, nous sommes avec vous toujours, mais il fallait quand même enfoncer le clou, me dire que vous ne dépensez pas assez pour la défense. C'était pas nécessaire de dire ça. Je crois que nos amis en Europe ou au Moyen-Orient commencent à penser qu'il n'est pas sérieux pour être un vrai allié. Mais à part ça, je crois que c'était un bon discours. Nous sommes des leaders dans le monde. Et nous allons défendre la démocratie, etc. Nous allons lutter contre le terrorisme. C'était pas un grand changement d'Obama.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Le président Donald Trump a annoncé une augmentation substantielle, 54 milliards de dollars, du budget de la défense américaine pour, dit-il, rebâtir l'armée américaine et lui donner les moyens de prévenir les guerres et de les gagner si elle doit se battre. Il a dit aussi qu'il réduira les dépenses américaines à l'étranger pour investir dans les projets domestiques. Timothée Donangmai a recueilli l'analyse de Brett Bruen, président de la firme de conseil en communication stratégique Global Situation Room.
Il y a dans le Congrès certains membres qui voudraient augmenter le budget de défense, mais en même temps, il y a, je dirais, une majorité, surtout républicaine, qui ont toujours suivi une politique plus conservatrice en termes budgétaires. Et le projet que Trump vient de mettre sur le budget, je crois qu'il aura des difficultés à trouver de support parmi les membres du Congrès.
Le président Trump a dit que les États-Unis ont dépensé des milliers de milliards au Moyen-Orient alors que cet argent aurait pu être investi ici aux États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie pour sa politique étrangère, notamment l'aide au développement?
Je crois que le président Trump cherche des retours sur les investissements que le gouvernement américain fait, on peut dire, immédiat en termes de compromis ou d'autres bénéfices économiques que le gouvernement américain pourrait présenter pour justifier ses engagements. Et ça, c'est vraiment une politique nouvelle pour les États-Unis parce qu'auparavant, il y en a des investissements pour le long terme parce que nous savions ces initiatives, ces investissements, ils étaient nécessaires pour le développement de certaines régions du monde, soit l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, ou bien en Afrique pendant les années récentes.
Brett Bruen, président de la firme de conseil en communication stratégique Global Situation Room à Alexandria, en Virginie.
Voilà, c'est tout pour cette partie consacrée au premier discours du président Donald Trump devant les deux chambres réunies du Congrès. Merci à Nicolas Pineau, Timothée Donangmai, Herman Cohen et Brett Bruen.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique, c'est le 11 mars que la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi va être rapatriée à Kinshasa. Sa famille en a fait l'annonce à Bruxelles, où le corps est gardé depuis son décès le 1er février dernier. Eddie Sango a joint à Bruxelles l'abbé Théodore Chilumba.
La date qui est retenue jusque-là est celle du 11 mars 2017. Je confirme, Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba a fait un communiqué de presse. J'étais à ses côtés au sujet des obsèques du président Étienne Tshisekedi Moulumba. Le communiqué est très clair là-dessus. Hein. C'est après concertation des deux familles, biologiques et politiques, qu'on a pris cette décision-là. Les conditions ont été posées. Les autorités de Kinshasa ont proposé un endroit. Donc après concertation, les deux familles ont trouvé que dans un premier temps, on peut inhumer le corps du président Tshisekedi à la Gombe, mais après, on trouvera un autre endroit où sera érigé un mausolée.
Et qu'en est-il de la nomination du Premier ministre que sa famille politique exigeait?
Les démarches sont là. On sait que ça va venir parce que le président lui-même avait déjà présenté le Premier ministre conformément à l'accord du 31 décembre 2016.
La dépouille de M. Étienne Tshisekedi est restée à Bruxelles, entre autres aussi, pour l'autopsie. Qu'en est-il?
Les avocats qui ont les dossiers font leur travail et après, je vous dirai quoi.
L'abbé Théodore Chilumba, secrétaire particulier d'Étienne Tshisekedi, il parlait de Bruxelles.
Dans le nord du Mali, l'autorité intérimaire de la région de Kidal, fief de l'ex-rébellion à dominante Touareg, a été installée hier après plusieurs reports, Jacques Aristide.
À Kidal, le président du conseil régional, Hassan Ag Fagaga, a reçu hier les symboles de l'État lors d'une cérémonie sous haute surveillance des forces de l'ONU et de l'opération française Barkhane. Les différentes autorités devaient initialement être installées à partir du 18 février, mais plusieurs groupes avaient contesté certains choix et le gouvernement de Bamako, par souci d'apaisement, avait reporté les cérémonies. Maintenant, les dirigeants provisoires des quatre autres régions administratives seront installés jeudi à Gao et Menaka et vendredi à Tombouctou et Taoudeni. En vertu de l'accord de paix de 2015, ces autorités intérimaires devront gérer les cinq régions du nord malien en attendant l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants. Ces nouvelles autorités devront préparer ces élections et favoriser le retour des déplacés du conflit politico-militaire dont le Mali tente de se relever depuis 2012.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a défendu, dans des déclarations diffusées mardi, la stratégie de son gouvernement dans la lutte contre les djihadistes au Sinaï, où des dizaines de familles chrétiennes ont été chassées par des attaques visant leur communauté. Le groupe djihadiste État islamique, dont une branche locale sévit dans le nord de la péninsule du Sinaï, avait publié la semaine dernière une vidéo dans laquelle il promettait de prendre pour cible les Coptes, c'est-à-dire la communauté chrétienne en Égypte. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons aujourd'hui par la Minute Éco et les sports. Et c'est Morgane Guiriec qui nous présente la Minute Éco.
Grève du syndicat pétrolier au Gabon. La situation restait tendue mardi à Port-Gentil. La justice a déclaré illicite le débrayage, tandis que l'Organisation nationale des employés du pétrole consulte ses bases pour le dépôt d'un préavis de grève générale dans tout le secteur des hydrocarbures. La grève a été lancée mercredi dernier au sein de la filiale gabonaise du pétrolier français Morel et Prom à l'occasion de son rachat à 72,65% par l'indonésien Pertamina. L'ONEP qualifie d'agression physique l'intervention des forces de l'ordre jeudi contre ces grévistes. La plateforme de vente en ligne Qnet a lancé la Spirit Watch, une collection de montres de luxe aux couleurs exclusives de la Côte d'Ivoire. Mélange d'un style décontracté et de la promesse de la qualité de la marque d'horlogerie suisse Bernard Mayer, cette modeste montre est un symbole de liberté et de paix avec son bracelet orange, blanc et vert, indique l'AFP. Croissance en berne au Nigeria, l'économie a souffert d'une sévère contraction de moins 1,5% de son PIB en 2016 selon les chiffres officiels. Une chute provoquée notamment par la faiblesse des cours de l'or noir et les attaques répétées des groupes rebelles contre les installations pétrolières.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cyclisme tropical Amissa Bongo au Gabon.
Tony Hurel s'est imposé lors de la deuxième étape qui est arrivée à Franceville. Ce mardi, le coureur de la formation Direct Energy devance le vainqueur de la veille, Mikel Aristi. Au classement général, le Français pointe en deuxième position derrière ce même Mikel Aristi. Ce mercredi, la troisième étape entre Mounana et Koulamoutou proposera un parcours de 157 km.
Le président de la FIFA confirme sa volonté d'avoir 10 équipes africaines au Mondial 2026.
Gianni Infantino a affirmé hier soir à la presse à Nouakchott qu'il travaillerait pour que l'Afrique puisse qualifier 9 à 10 équipes lors du Mondial 2026 de football. Sur les 48 équipes prévues pour le Mondial 2026, 9 à 10 seront africaines. Nous allons y travailler, a indiqué M. Infantino lors d'un point de presse dans la capitale mauritanienne. Dernière étape de sa tournée africaine. On rappelle que le pays organisateur de ce Mondial 2026 sera connu en mai 2020.
La FIFA qui suspend le Nigérian Amos Adamu.
L'ancien membre du comité exécutif de la FIFA, déjà suspendu dans le passé pour des soupçons de corruption, a été suspendu 2 ans par la justice interne de la FIFA. Ancien membre du comité exécutif de la FIFA et de la Confédération africaine de football, Amos Adamu est l'un des nombreux noms du football mondial qui alimente la chronique judiciaire ces dernières années. Adamu avait déjà été suspendu 3 ans en novembre 2010 par la commission d'éthique de la FIFA pour des soupçons de corruption dans l'attribution des mondiaux 2018 à la Russie et 2022 au Qatar.
La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Zambie.
Oui, tout à l'heure dans le groupe A, la Guinée face à l'Égypte et le Mali face à la Zambie. On rappelle que la Zambie est première grâce à sa victoire en match d'ouverture 1-0 face à la Guinée. Deuxième ex aequo, le Mali et l'Égypte qui avaient fait 0-0. Enfin Idrissa, on vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Golden State Warriors 108, Washington 112, Portland Trail Blazers 113, Detroit Pistons 120, Denver Nuggets 125, Chicago Bulls 107, Utah Jazz 106, Oklahoma City Thunder 109, Phoenix Suns 112, Memphis Grizzlies 130.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le groupe Ansarul Islam a revendiqué la responsabilité de l'attaque dans la nuit de lundi à mardi de 2 commissariats de police dans la province d'Issoum, dans le nord du pays, près de la frontière malienne. Attaque qui intervient 2 mois après celle qui avait coûté la vie à 12 soldats burkinabés dans le même secteur. Pour une analyse, Idriss Fall a joint à Saint-Cloud, dans l'État du Minnesota, l'ancien journaliste Ibrahim Maïga.
Malem Ibrahim Diko, c'est un prédicateur de la zone du Soum, la province où les attaques se perpétuent couramment au niveau du Burkina Faso. Et c'est quelqu'un qui a fait une partie de ses études coraniques au Mali et une autre partie au Niger, puisqu'il a beaucoup séjourné à Niamey.
Apparemment, il avait pignon sur rue dans la ville de Djibo.
Effectivement. En fait, en 2012, il avait été arrêté par l'armée française lors d'une opération. Il a été libéré 2 ans après avoir été détenu à Bamako. Il est revenu à Djibo, où sur une radio locale, il faisait des prêches en permanence.
Mais à partir de quand s'est-il radicalisé alors?
Il a toujours été très radical. Le radicalisme dans nos zones, ce n'est pas quelque chose qui est caché, mais c'est le fait qu'il ait pris les armes qui a mis à lumière la situation.
Et qu'est-ce qu'il veut donc? Est-ce que c'est le djihadisme tel qu'on le connaît au niveau de Al-Qaïda, ou bien c'est comme Amadou Koufa au Mali?
Il est très lié à Amadou Koufa. Il joue sur la cible ethnique. Il a les mêmes ambitions parce que pour lui, la seule chose qui est acceptable dans la zone, c'est d'avoir l'islam comme principale religion. Et aucune autre religion ne peut être tolérée ou acceptée dans la zone. Donc c'est les mêmes ambitions en quelque sorte, sauf à l'exception près que lui, il parle d'instaurer le Djelgoudi. Le Djelgoudi, c'est un sous-groupe ethnique Peul qui avait un territoire dans la zone de Djibo dans les temps anciens. Il parle de restauration du Djelgoudi et de l'indépendance du Djelgoudi pour l'islamiser.
En fait, un djihadisme bien local et bien burkinabé.
C'est un djihadisme purement local et pas seulement burkinabé, largement ethnique. Quand on regarde ces liens, ça va au Niger et ça va au Burkina, mais ça n'a rien à voir avec l'ancien type de djihadisme qu'on connaît. Ça n'a pas de connexion directe, peut-être que des rapports d'intérêt ou bien des rapports de cause, mais ça n'a pas de lien direct avec ce que l'on connaît.
C'est-à-dire pas de lien direct avec les Mokhtar Belmokhtar ou bien le Moujaou et tout ça, quoi.
Absolument, absolument. Ils ont des liens de circonstance puisque ce qu'ils partagent en commun, c'est la terreur, mais ils n'ont pas les mêmes sources ni les mêmes origines. Il est déjà un danger pour le Burkina et pour la sous-région. Il a beaucoup de connexions et il s'appuie essentiellement sur la politique de la peur pour museler les populations afin d'éviter que les gens dénoncent. Et il réussit très facilement à imposer sa vision dans toute la zone.
L'ancien journaliste Ibrahim Maïga, basé à Saint-Cloud, dans l'État du Minnesota.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Togo, grogne des automobilistes à Lomé, la capitale, suite à l'augmentation du prix des produits pétroliers. Les chauffeurs de taxi et conducteurs de taxi-moto ont bloqué les voies pour exprimer leur désarroi ce mardi. Nous signale de Lomé notre correspondante Kay Lawson.
Circuler ce mardi 28 février à Lomé est comparable à un parcours de combattant. Déjà vers 10 heures, les premiers signaux sont donnés à Décon, le plus grand carrefour commercial de Lomé. Les conducteurs de taxi viennent de bloquer la circulation. Ils protestent contre la hausse du prix du carburant, décision prise hier nuit et entrée en vigueur ce jour.
Pourquoi nous avons bloqué la voie? Parce que c'est à cause de l'augmentation de l'essence. Il faut que le gouvernement nous explique. Il faut que le gouvernement nous explique clairement pourquoi ils ont augmenté. Le gouvernement ne peut pas être là dans une chambre et augmenter seulement c'est quoi?
Comme une traînée de poudre, le mouvement se propage et paralyse la circulation dans la capitale. Les grandes artères de la ville sont barricadées, les ruelles sont devenues des substituts. Que ce soit au carrefour du marché de Ber, réputé fief de l'opposition, ou à la jonction des boulevards de la République du Mono et du boulevard circulaire au niveau de la plage, ou encore au carrefour GTA menant vers la banlieue nord d'Agoué, qui serait favorable au pouvoir de Lomé, les manifestants sont sur la même longueur d'onde. Ramener les prix à ceux du 27 janvier dernier est la seule et unique exigence.
Le prix du carburant soulève chaque fois. En un mois, ils ont augmenté le prix du carburant 2 fois. En moins d'un mois, on ne peut plus supporter. Ça va de loin, on ne peut plus supporter. Le mois de janvier, ils ont augmenté. Donc à partir d'aujourd'hui, on va bloquer toutes les routes. Toutes les routes vont bloquer. Pas de passage voiture, moto, pas. Ils n'ont qu'à diminuer le prix. C'est ça, c'est ce qu'on veut. C'est le Togo seul. C'est le Togo seul. Au Bénin, il n'y a pas ça. Au Ghana, ici, il n'y a pas ça. C'est le Togo seul. En moins d'un mois, deux fois. Non.
On a diminué pour le pétrole, c'est tout.
Jusqu'en début d'après-midi, la situation reste tendue à Lomé. Par un arrêté interministériel, le gouvernement togolais a procédé à une hausse des prix des produits pétroliers à la pompe. Une augmentation qui se situe dans l'intervalle 43 et 48 francs CFA sur le litre, soit environ 10%. Rappelons que le SMIC actuellement en vigueur dans le pays est fixé à 35 000 francs CFA, soit 60 dollars américains. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Multiplication ces derniers temps des violences xénophobes en Afrique du Sud. Qu'en pensent nos auditeurs? Eh bien, Eric Manirakiza s'est entretenu avec certains d'entre eux dans notre émission Antenne Libre.
Moi, je dis que les violences à caractère xénophobe ou raciste, à l'instar de ce qui se passe en Afrique du Sud, est tout simplement inacceptable. C'est une terrible honte pour ce pays qui doit sa stabilité et sa démocratie au grand Nelson Mandela, qui a sacrifié, n'est-ce pas, l'essentiel de sa vie pour enterrer l'apartheid et la ségrégation raciale afin que règne l'unité dans une Afrique prônant l'intégration. Car il faut surtout pas exclure des actes de représailles dans les pays dont les ressortissants sont traqués à l'étranger comme des moins que rien, je m'excuse du terme, et adieu l'intégration africaine.
Omar Boulalé, NASA.
Il faut un changement de mentalité, c'est très important. Parce que le fait de s'entretier, le fait de créer d'hostilité à ceux qui sont venus à chercher le bonheur et l'espoir dans votre pays, ça cause problème de l'intégration africaine dont on cherche.
Béni Koutomissa.
Nous tous, on est des Africains, ils tuent des gens comme ça, ils massacrent des gens. J'ai vu des vidéos, ils sont en train de massacrer, de brûler des gens. Mais pourtant, nous, on a, moi, j'ai genre ma famille qui sont là-bas, parce que tout ma famille sont là-bas. Sauf que moi, je vois ça, ça fait pas bien de voir tout ça. Et maintenant, c'est arrivé un membre de ma famille qui posant un peu ça. Ça va être comment?
Mamadou Barry.
Aujourd'hui, quand on voit des types d'Africains qui sont des étrangers africains aussi, comme les chassés dans leur pays, soi-disant comme argument que ces étrangers viennent leur prendre leurs emplois, c'est vraiment dommage.
Ben, vous parlez des Sud-Africains, mais ce ne sont pas tous les Sud-Africains, c'est une poignée de personnes.
Ce qu'on voit actuellement sur les médias, donc vraiment ça nous dégoûte quand même, ça nous dégoûte vraiment. Il ne s'agit même pas de l'Afrique du Sud seulement, c'est dit à l'inconscience des Africains, sans quoi des Africains ne doivent pas chasser des vrais Africains aussi dans leur pays, étant donné qu'on est tous noirs et qu'on vit dans un même continent, c'est pas normal.
Abdelaziz Minungu.
Moi, je pense que la xénophobie, ça se passe partout, hein, surtout en Afrique ici.
Pourquoi?
Des pays comme
pourquoi
la Guinée équatoriale, le Gabon, même de nos jours, vous allez beau fouiller dans les prisons, rentrer dans les cellules, dans les commissariats, vous allez voir les Maliens, les Burkinabés maltraités, agressés. Ce n'est pas seulement en Afrique du Sud.
C'est docteur Célestin depuis Mozambique. Moi, je suis un Congolais vivant au Mozambique, je travaille comme médecin. Ça me fait mal, pourquoi? Parce que chez moi, dans mon pays, moi je suis originaire de la RDC, dans la MONUSCO, il y a des Sud-Africains. Il y a des casques bleus Sud-Africains qui travaillent aux côtés de la MONUSCO dans mon pays. Pour moi, quand je vois les Sud-Africains, je les prends comme un libérateur, un homme d'épée. Quand je vous vois, bon, je me réfère à ces casques bleus, quand qui travaillent dans la MONUSCO dans mon pays. Alors, quand je vois mes amis congolais sauvagement assassinés, sauvagement tués en Afrique du Sud, ça me fait très mal.
Ces réactions ont été recueillies par Eric Manirakiza dans le cadre de notre émission Antenne Libre.
Dans Washington Forum ce jeudi, Cameroun, le malaise anglophone. Des rassemblements violemment réprimés par les autorités qui ont interdit de manifester. Internet coupé et l'arrestation de trois leaders de la contestation. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, la minorité linguistique s'estime lésée. Que veulent les Camerounais anglophones? Le dialogue avec le gouvernement est-il dans l'impasse? Quelle unité du pays après 34 ans de Paul Biya au pouvoir? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.